Bonjour, chers frères. Je suis heureux de vous voir tous. La loi des viandes pures et impures est l'une des doctrines les plus reconnaissables et les plus importantes de l'Église. De nombreuses personnes qui sortent du monde et apprennent cette doctrine peuvent voir leur mode de vie changer du tout au tout. Je me souviens que, dans mon pays d'origine, les côtes, le poisson-chat, c'était un mets de choix. Aujourd'hui, cela ne marche plus. Je ne pourrais probablement plus en manger, mais c'était une grande affaire dans mon pays d'origine. Peut-être que certains d'entre vous peuvent en dire autant. Si vous vous rendez dans un restaurant gastronomique, vous verrez souvent du homard, des crevettes, des coquilles Saint-Jacques, des huîtres, des calamars, qui sont généralement les produits les plus chers du menu. Certains hommes, désireux d'impressionner leur compagne, commandent ces produits, qui sont les plus chers du menu. Certaines des femmes qui participent à ces rendez-vous commandent également ces plats pour vérifier si le rendez-vous se passe bien du point de vue de l'homme. Mais pour de nombreuses personnes, ces aliments, qui sont en fin de compte impurs, sont considérés comme très chers et, comme je l'ai dit, comme des mets délicats. Devinez quelle est la viande la plus consommée dans le monde entier. Quelle est la viande la plus consommée au monde? Beaucoup d'entre vous ont probablement deviné qu'il s'agit de la viande de porc. La consommation de porc représente plus d'un tiers de la consommation totale de viande dans le monde. C'est pourquoi, malgré toutes les autres possibilités de viande qui existent, les gens mangent du porc. Ce qui est intéressant dans la doctrine des viandes pures et impures, c'est qu'elle est démonstrative. C'est quelque chose que les gens peuvent manifestement voir que vous faites ou que vous ne faites pas. Si vous êtes au restaurant, les gens peuvent remarquer que vous évitez ces plats, que vous ne commandez pas ces plats. Peut-être demanderez-vous discrètement au serveur ou à la serveuse si tel ou tel plat contient du porc ou des crustacés. Lorsque nous sortons au restaurant, et j'ai appris cela au fil des ans, nous indiquons d'emblée au personnel de service que nous ne prenons pas de porc ou de crustacés, et la plupart d'entre eux sont très coopératifs à cet égard, principalement parce qu'ils veulent probablement un pourboire, et donc un gros pourboire. Ils veillent donc à ce que ces produits ne soient pas inclus dans le repas. Mais la doctrine des viandes pures et impures est quelque chose qu'un nouveau chrétien peut appliquer immédiatement. Elle ne nécessite pas beaucoup d'études. C'est quelque chose que l'on peut commencer à faire tout de suite, comme pour le respect du sabbat. Même les juifs et les musulmans reconnaissent que les viandes impures ne doivent pas être mangées. C'est quelque chose que les gens ne doivent pas consommer. Pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de personnes dans mon auditoire à travers le monde qui écoutent ce message, cela fait peut-être des décennies que vous n'avez pas mangé de sandwich au jambon. Cela fait peut-être très longtemps. Pour d'autres, qui viennent peut-être d'entrer dans l'Église, cela ne fait pas si longtemps, mais vous comprenez très clairement que la doctrine, en particulier le fait de ne pas manger de viande impure, est quelque chose que Dieu attend. Dieu a dit, bien sûr, de ne pas manger de viande impure, et frères, nous savons tout cela. Alors vraiment, qu'y a-t-il d'autre à apprendre au sujet de la doctrine? Et vous avez simplement une liste de viande que vous pouvez manger et une liste de viande que vous ne pouvez pas manger. C'est à peu près tout, n'est-ce pas? Y a-t-il autre chose à apprendre? Y a-t-il autre chose à glaner dans cette doctrine? Comme je l'ai dit, très importante et très reconnaissable. Qu'y a-t-il d'autre à apprendre? Eh bien, frère, cette doctrine, la doctrine des viandes pures et impures, est bien plus qu'une simple question de régime alimentaire. C'est beaucoup plus que, dans ce cas, une loi de choses à faire et à ne pas faire. C'est beaucoup, beaucoup plus que cela. La doctrine des viandes impures a une signification spirituelle beaucoup plus profonde, et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons aborder la signification spirituelle beaucoup plus profonde de la doctrine des viandes pures et impures. Nous allons commencer par passer en revue la doctrine et en examiner les détails. C'est une révision pour certains, et pour d'autres, vous entendrez peut-être des choses que vous n'aviez pas entendues auparavant ou que vous aviez peut-être oubliées. Mais beaucoup de gens dans le monde, des gens en général, sont surpris que Dieu se préoccupe de ce que nous mangeons. Ils se disent, pourquoi Dieu se préoccupe-t-il de cela? Dieu se préoccupe de choses bien plus importantes que ce que nous mangeons. S'intéresser à ce que nous mangeons, cela semble être le propre des gens qui sont trop concentrés sur la loi, ou des pharisiens, ou des gens qui s'inquiètent de ces détails. Dieu ne se soucie pas de ce que nous mangeons. Eh bien, mes frères, c'est tout le contraire. Dieu se soucie beaucoup de ce que nous mettons dans notre corps. Et cela ne devrait pas être une surprise. Les psaumes le disent, je crois que c'est le roi David qui a dit que nous sommes faits de manière redoutable et merveilleuse. Dieu nous a formés, nous a façonnés. Bien sûr, il nous a créés pour que nous puissions manger, pour créer de l'énergie dans notre corps. Il est donc évident que Dieu se préoccupe beaucoup du carburant que nous mettons dans notre corps. L'estomac a été comparé à un réservoir d'essence. Et selon le carburant que nous mettons dans notre corps, celui-ci va fonctionner d'une certaine manière. Dieu se préoccupe donc certainement de ce que nous mangeons. Beaucoup de gens, lorsqu'ils réfléchissent à ce qu'ils doivent manger, se contentent de ce qui leur semble bon. C'est bon, alors je vais le manger. Et malheureusement, cela a conduit à de nombreux problèmes de santé. Cela a conduit à une épidémie d'obésité, en particulier ici dans le monde occidental. De nombreuses personnes sont en surpoids et en mauvaise santé. Et cela s'explique en grande partie par le fait que, lorsqu'il s'agit du carburant qu'ils mettent dans leur corps, ils se concentrent sur ce qui a bon goût. Or, il est possible de donner du goût à des aliments sains. Ma femme l'a certainement prouvé. Beaucoup de femmes dans l'église, peut-être quelques hommes aussi, qui aiment cuisiner et peuvent comprendre qu'il est possible de donner un bon goût à des aliments sains. Mais dans le monde, beaucoup se disent, d'accord, cela a bon goût, alors je vais le mettre dans mon corps. Et il existe de nombreux poisons, en particulier les viandes, dont nous allons parler aujourd'hui. Il existe de nombreux poisons, mais pas seulement les viandes, de nombreux poisons que les gens consomment à tort comme de la nourriture. Ce qui est difficile, c'est de penser à un poison, au cyanure ou à un autre poison, que l'on absorbe et que l'on meurt immédiatement. Dans le cas des aliments, de nombreux aliments toxiques, il faut plus de temps. Il peut s'écouler 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, voire 50 ans dans certains cas, avant que les effets ne se fassent pleinement sentir. C'est ce qui peut être trompeur. Mais en fin de compte, ces aliments, en particulier les viandes impures, ces aliments impurs dont nous allons parler, ces aliments sont en fait des poisons. Très tôt dans les Écritures, Dieu a fait une distinction, une différence entre les viandes pures et les viandes impures. Voir le chapitre 7 de la Genèse. Genèse, chapitre 7. Dieu, très tôt, a fait une distinction entre les viandes à manger et les viandes à ne pas manger. Genèse, chapitre 7. Nous lirons le verset 2. Genèse, chapitre 7, verset 2. Il est dit, de toute bête pure. Il s'agit d'instructions données à Noé sur les animaux à emporter dans l'arche. De tous les animaux purs, tu prendras par 7, le mâle et la femelle. Et des animaux qui ne sont pas purs, tu en prendras 2, le mâle et la femelle. Donc Dieu, tout de suite, a utilisé, dans ses instructions, il a utilisé le terme de bête pure, Donc des bêtes pures et des bêtes impures. Propre signifie pur. Impur, c'est le contraire. Cela signifie impur. Donc Dieu dit, je veux que vous preniez sept paires d'animaux purs ou purs dans l'arche, et une seule paire d'animaux impurs. Il fait donc une distinction claire. Pourquoi cette distinction? Pourquoi cette distinction? Parce qu'il s'agissait de nourriture. Il s'agissait de la nourriture, de la viande que les gens devaient manger et ne pas manger. Même Dieu ne veut pas de viande impure. Restez ici dans la Genèse. Allons au chapitre 8. Dieu ne veut pas de viande impure. Genèse, chapitre 8, verset 20. Il est dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures, et nous voyons à nouveau le mot « pur », et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Et Dieu sentit une odeur agréable. Avez-vous remarqué que les holocaustes, la viande qui allait être littéralement placée sur un autel et brûlée, Dieu voulait que cette viande soit pure. Il ne voulait pas qu'elle soit impure. Il ne voulait pas que des animaux impurs lui soient sacrifiés. Et il appelait cela une odeur agréable, une saveur agréable. Dieu a donc donné des instructions à Noé sur les animaux purs et impurs. Il alla même jusqu'à dire, « Je ne veux pas que tu me sacrifies des viandes impures. Je veux seulement que tu me sacrifies des animaux purs. » Il y a donc des viandes pures et des viandes impures. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre la viande propre et la viande impure, entre la viande pure et la viande impure? Lévitique 11. J'encourage beaucoup d'entre vous, si ce n'est déjà fait, à marquer cette partie dans votre Bible, car elle détaille vraiment les aliments purs et impurs, les viandes pures et impures. Nous reprendrons au début du chapitre. Le Lévitique 11 dit, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et leur dit, en s'adressant aux enfants d'Israël, « Voici les animaux que vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Voici les animaux que vous mangerez, dit Dieu. Vous mangerez tout ce qui a le sabot et le pied fourchu, et qui rumine, parmi les animaux. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent, ni de ceux qui divisent le sabot, comme le chameau, car il rumine, mais ne divise pas le sabot, et il est impur pour vous. Je m'arrête là. Dieu a donc déjà défini les paramètres, la manière dont les êtres humains peuvent percevoir quels animaux terrestres sont considérés comme purs et quels animaux terrestres sont considérés comme impurs. Il commence par dire que l'animal doit avoir une partie du sabot ou un pied fourchu. Si vous avez déjà vu un animal propre, et que vous regardez le sabot, vous verrez qu'il est divisé en deux. Il y a soit deux orteils, soit quatre orteils. Vous pouvez donc immédiatement voir un veau, une vache, un veau, une chèvre, un mouton, ils ont les pieds fourchus. Ils ont le sabot fendu. Mais il est également dit que l'animal ne doit pas seulement avoir un sabot fendu, mais qu'il doit aussi ruminer. C'est important. Il faut que ce soit les deux. Le terme « cadre » représente la nourriture régurgitée. Dans le cadre du système digestif d'un animal propre, il mange la nourriture, la mâche, l'avale et l'introduit dans ce que l'on appelle un premier estomac. Il régurgite cette nourriture et la mâche à nouveau. C'est ce qu'on appelle le cadre. Il mâche donc le mufle, ce qui décompose encore plus la nourriture. Ainsi, les animaux propres, les animaux terrestres propres doivent avoir un sabot fendu et doivent ruminer. Il faut que ce soit les deux. Ce ne peut être l'un ou l'autre. Un porc, par exemple, a un pied fendu, mais il ne rumine pas. Un lapin rumine, mais il n'a pas de pattes fourchues. Il faut donc que ce soit les deux. Il faut que ce soit les deux. Verset 9. Vous mangerez alors de tout ce qui est dans les eaux. Nous allons maintenant parler des fruits de mer. Vous mangerez tout ce qui a des nageoires et des écailles dans les eaux, dans les mers et dans les fleuves. Et tout ce qui n'a pas de nageoires et d'écailles dans les mers et dans les fleuves, tout ce qui se meut dans les eaux et tout être vivant qui est dans les eaux, vous les aurez en abomination. C'est un autre mot pour dire impur ou impur. Ils doivent être une abomination, ils doivent vous dégoûter. Vous devez les éviter. Vous ne devez pas les manger. Une fois de plus, avec les animaux marins, nous constatons qu'il y a deux critères. Ils doivent avoir des nageoires et des écailles. Ils doivent avoir les deux. C'est le cas du saumon, de la truite, du tilapia, tous bons à manger. Le fait qu'ils doivent avoir les deux caractéristiques, les nageoires et les écailles, élimine tous les coquillages. Ils doivent avoir les deux. Tous les mollusques et crustacés sont éliminés. Les requins, les baleines, les poissons-chats, vous vous souvenez du mets délicat dont je parlais? Les poissons-chats ont tous des nageoires, mais pas d'écailles. Ils ne doivent donc pas être consommés sur. C'est très clair. Dieu est très clair, et il nous donne ses caractéristiques ou critères pour que nous puissions savoir ce qui doit être mangé. Verset 13. Voici ceux qui vous seront en abomination parmi les oiseaux ou les volatiles. Ils ne doivent pas être mangés. Ils sont une abomination. L'aigle, l'ossifrage et le balbuzard. Et il continue en énumérant plusieurs oiseaux chasseurs ou prédateurs, des oiseaux charognards. Il n'y a pas de liste d'oiseaux propres, mais quand on regarde les caractéristiques de tous les oiseaux impurs, on peut discerner les caractéristiques qu'un oiseau doit avoir, qu'une volaille doit avoir. Si vous lisez notre article sur le sujet, vous verrez qu'il y a 6 caractéristiques qu'il traverse, n'est-ce pas? Le poulet, la dinde, la colombe, le pigeon, qui est une forme de colombe. Je ne pourrais pas imaginer manger un pigeon, mais tous ces oiseaux sont propres. Ce sont toutes des choses que nous pouvons certainement manger. Verset 21. Vous pouvez manger de tous les reptiles volants qui marchent sur leurs 4 pattes, et qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter avec tous ceux qui sont sur la terre. Il s'agit ici des insectes. Dans notre culture, nous ne mangeons pas vraiment d'insectes. Certaines personnes en mangent, mais ce n'est pas une pratique courante. Je n'ai jamais été dans un restaurant où l'on peut commander des insectes au menu, mais dans d'autres cultures, dans d'autres parties du monde, les insectes font partie intégrante du régime alimentaire. Ils peuvent être très riches en protéines, mais la plupart des insectes sont impurs. La plupart des insectes ne doivent pas être mangés. Les sauterelles, les criquets et les grillons font exception à cette règle, car ils ont des pattes articulées qui leur permettent de sauter, et c'est de cela que parle l'Écriture. Certains insectes peuvent donc être mangés, mais la plupart ne le peuvent pas. Versets 24 à 40, ici dans le Lévitique. Il y est question de toucher le cadavre d'un animal impur. Nous ne devons pas faire cela. Si vous le faites, vous êtes impur jusqu'au lendemain ou jusqu'au soir. Même les animaux propres qui meurent d'eux-mêmes. Si vous tombez sur une vache morte, une chèvre morte ou un mouton mort, vous ne devez pas les manger. Ces animaux ne doivent être mangés que s'ils ont été tués et abattus correctement. C'est logique. Vous tombez sur une chèvre morte, vous n'avez aucune idée de la façon dont elle est morte, je ne mangerai pas cela, même si cela semble bon. Et même si c'était facile, vous n'avez pas eu besoin d'aller à la chasse. Dieu dit de ne pas manger ces choses. Les vêtements, les récipients, comme un vase ou des récipients, des choses comme cela, qui sont entrées en contact avec certains animaux, ces choses sont également considérées comme impures. Verset 41. Reprenons-le ici. Il dit, tout reptile qui rampe sur la terre sera en abomination, on n'en mangera pas. Ce qui marche sur le ventre, ce qui marche sur les quatre pieds, ce qui a le plus de pieds parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, vous n'en mangerez pas, car c'est une abomination. Il s'agit des animaux préférés des dames, les souris, les rats, les rongeurs, les chauves-souris, qui ne doivent certainement pas être mangés. Les serpents, les lézards, ces choses sont interdites. Lévitique 17. Nous entrons ici dans les détails. Dieu a exposé à son peuple ce qu'il attendait de lui. Lévitique 17, verset 10. Il est dit, tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu de vous, qui mangera du sang de quelque manière que ce soit, je tournerai ma face contre celui qui mangera du sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car la vie de la chair est dans le sang, et je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation de vos âmes, car c'est le sang qui fait l'expiation de l'âme. Le sang est très précieux, très important pour Dieu. En tant que chrétiens, nous le comprenons. Pensez au sang de Jésus-Christ. Dieu dit, la vie est dans le sang. Je ne veux pas que mon peuple ou le peuple tout court consomme du sang. Ce n'est pas quelque chose que les gens devraient manger. Voilà qui est clair. On peut avoir un animal propre, mais Dieu a dit, ne le mangez pas cru. La plupart des viandes que nous consommons, qu'elles soient propres ou non, sont vidées de leur sang. Mais Dieu dit de ne pas manger de viande crue. On peut manger un steak saignant ou à point, c'est très bien, mais il ne faut pas manger le sang. Lévitique, chapitre 3. Le Lévitique est un livre étonnant, il expose tant de détails. Lévitique, chapitre 3, verset 17. Ce sera une loi perpétuelle pour vos générations, dans toutes vos demeures, que vous ne mangiez ni graisse, comme nous le voyons une fois de plus, ni sang. Dieu dit donc aussi de ne pas manger de graisse. Or, si vous connaissez un peu le corps et les animaux, vous savez que c'est dans la graisse que se trouvent généralement les toxines. Les choses dans le corps qui ne sont pas bonnes pour vous. Même chez les humains, les personnes qui jeûnent et perdent du poids, souvent la raison pour laquelle elles ne se sentent pas très bien est que le corps commence à brûler de la graisse, et que cette graisse contient des toxines. Dieu dit, je ne veux pas que les gens mangent de la graisse des animaux, même s'ils sont propres. Maintenant, il y aura une certaine quantité de graisse à l'intérieur de la viande, comme des marbrures. Si vous avez vu des marbrures dans un steak, c'est très bien, c'est très bien. Mais nous ne devons pas consommer de graisse, même si elle semble avoir de la saveur ou un très bon goût. Une quantité équilibrée de graisse dans la viande est acceptable, mais nous ne devons pas manger la graisse, et c'est ce que Dieu nous dit. Nous nous tournons vers le Deutéronome 14. Il s'agit d'un autre endroit dans les Écritures qui expose la doctrine des viandes pures et impures. Je vous encourage à marquer cet endroit dans votre Bible, entre Lévitique 11 et Deutéronome 14. Il expose la doctrine des viandes pures et impures. Nous ne lirons qu'un seul verset. Tu ne mangeras pas. C'est le Deutéronome 14, 3. Vous ne mangerez aucune chose abominable. Dieu est clair comme de l'eau de roche. Tu ne mangeras aucune chose abominable ou dégoûtante. Et il répète ce que nous venons de lire dans le Lévitique 11. Ces animaux dégoûtants et abominables sont souvent des charognards. Ils sont porteurs de toutes sortes de maladies et sont nuisibles, voire mortels pour l'homme. Dieu nous dit, ne les mangez pas. Ne les mangez pas. Ils ne sont pas faits pour que vous les mangiez. Ils n'ont pas été créés pour que vous les consommiez comme de la viande. Je vous donne le moyen de savoir quels animaux doivent être mangés et lesquels ne doivent pas l'être. Je trouve cela étonnant. On se demande si, lorsque Dieu a créé ces animaux, il savait qu'il fallait leur donner des caractéristiques distinctives pour que les gens sachent s'ils doivent ou non les manger. C'est très simple. C'est un pied fendu, c'est un sabot fendu, il a une mine, d'accord, je peux manger cela. La peau, les écailles et les nageoires, d'accord, je peux les manger. Dieu énonce toutes ces caractéristiques, il rend les choses faciles et agréables. Nous lisons ces lois et ces détails dans le Deutéronome et le Lévitique, mais comme nous l'avons vu précédemment, et nous allons y revenir un peu plus en détail ici, apparemment, cette loi des viandes pures et impures était connue bien avant cela. Rappelez-vous, nous avons lu Noé, mais revenons à la Genèse, au chapitre 9 de la Genèse. Il s'agit vraiment de renforcer les choses, de passer en revue la doctrine. Frères et sœurs, il est bon de passer en revue les doctrines de Dieu, il est bon de passer en revue ces choses. Genèse, chapitre 9. Nous sommes sur le point de lire le passage où Dieu dit qu'il est permis de manger de la viande. Alors ceux qui ne sont pas dans l'Église, mais qui se posent des questions sur le végétarisme, prenons-en bien note. Genèse, chapitre 9. Nous reprendrons au verset 2. Genèse, chapitre 9, verset 2. La crainte et l'effroi que tu inspireras à tous les animaux de la terre et à tous les oiseaux du ciel, tout ce qui se meut sur la terre et tous les poissons de la mer seront livrés entre tes mains. Tout ce qui se meut sur la terre et tous les poissons de la mer seront livrés entre tes mains. Tout ce qui se meut et qui vit vous servira de viande ou de nourriture, comme je vous ai tout donné pour l'herbe verte. Mais vous ne mangerez pas la chair, ce qui en est la vie, ce qui en est le sang. Un rappel sur le fait de ne pas manger de sang. Dieu dit donc que l'on peut manger de la viande. Il est intéressant de lire que tout ce qui bouge et qui vit vous servira de viande. Oh, cela signifie que nous pouvons manger tout ce que nous voulons, n'est-ce pas? Non, il est écrit, même l'herbe verte. Il y a là un qualificatif. On ne mange pas de plantes vénéneuses, ou du moins je ne le ferai pas. Il y a donc un qualificatif, mais Dieu dit que la viande protéinée est acceptable. En fait, j'ai conçu le corps pour qu'il consomme de la viande. Bien sûr, il y a certaines viandes qui doivent ou ne doivent pas être mangées. Nous avons donc vu Noé, encore une fois, nous parlons bien avant le Lévitique et le Deutéronome, avant que la loi ne soit écrite, il y avait déjà une distinction entre le pur et l'impur. On a dit à Noé de prendre 7 paires de certains animaux, c'est-à-dire 14 de ces animaux, et une paire d'animaux impurs, c'est-à-dire seulement 2. Si Noé avait faim et décidé de manger l'un des animaux impurs, il ne pouvait pas se reproduire. C'est tout. Il est donc clair que Dieu a autorisé plus d'animaux propres et a donné des instructions pour que plus d'animaux propres, en l'occurrence 14, soient emmenés dans l'arche. Et cela leur permettait d'être mangés comme viande, ainsi que d'être sacrifiés, comme nous l'avons vu plus tôt. Restons dans la Genèse, allons à la Genèse 18. Nous allons lire l'histoire d'un homme juste, qui avait affaire à de la viande. Genèse 18, verset 5. Nous allons lire les actions d'Abraham, un homme juste. Genèse 18, verset 5. Si vous suivez le contexte, ces trois hommes viennent de rendre visite à Abraham, et il va les nourrir. Genèse 18, verset 5. J'irai chercher un morceau de pain et je réconforterai vos cœurs. Après cela, vous passerez, car c'est pour cela que vous êtes venus vers votre serviteur. Ils répondirent, faites ce que vous avez à faire. Abraham se hâta d'aller vers Sarah dans la tente, et il lui dit, Prépare vite 3 mesures de farine, pétris-la, et fais des gâteaux sur la terre. 7e verset. Abraham courut vers le troupeau et prit un veau tendre et bon. Il le donna à un jeune homme qui s'empressa de l'apprêter. Il est donc clair qu'ils avaient mis en place tout un système pour élever, préparer et manger la viande. Et cette viande était servie à l'ange du Seigneur, un Christ préincarné et 2 anges. Il est donc évident que manger de la viande, en l'occurrence du veau ou un veau tendre, ne posait aucun problème. Il savait comment la préparer. Le jeune homme savait exactement ce qu'il fallait faire. Il a couru chercher le veau dans le troupeau. Sinon, pourquoi aurait-il eu un troupeau? C'était pour l'élever et avoir de la viande à manger. Exode, verset 16. Nous abordons ici non seulement la question des viandes propres, mais aussi le fait que nous devrions manger de la viande. La viande est bonne. La viande est bonne à manger. Nous en reparlerons plus tard. Exode 16, verset 12. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. C'est Dieu qui parle. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, et je leur ai dit, le soir, vous mangerez de la chair. Vous mangerez de la chair. Dieu leur dit que vous mangerez de la viande. Ils réclamaient de la nourriture, ils voulaient quelque chose à manger et ils voulaient de la viande. Le soir, vous mangerez de la chair, et le matin vous serez rassasiés de pain, et vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu. Le soir, l'écaille, c'est-à-dire un oiseau propre, les cailles montèrent et couvrirent le camp, et le matin, la rosée s'étendit autour de l'hôte. Manifestement, manger des cailles, manger de la viande, manger un oiseau propre, c'était bien. Dieu en a nourri son peuple. Mais il est arrivé un moment où ils en ont eu assez. Ils devaient en manger beaucoup. Il est donc évident que les cailles sont propres, que la viande peut être consommée, mais pas toute la viande. Pas toutes les viandes. Ésaïe, chapitre 65. Toutes les viandes ne doivent pas être mangées. Ésaïe 65, verset 2. J'ai étendu mes mains tout le jour sur un peuple rebelle. C'est Dieu qui parle à son peuple. J'ai étendu mes mains tout le jour sur un peuple rebelle, qui marche dans une voie qui n'est pas bonne, selon ses propres pensées. Un peuple qui m'irrite continuellement en face, qui sacrifie dans les jardins et brûle de l'encens sur des autels de briques, donc ils adorent de faux dieux, qui demeurent parmi les sépulcres et se logent dans les monuments, qui mangent de la chair de porc, c'est du porc, qui mangent de la chair de porc, et un bouillon de choses abominables dans leurs vases. Pensez à aujourd'hui, ce serait quelque chose qui ressemblerait à un plat créole. Quelque chose qui contient toutes sortes de choses abominables, des coquillages, des fruits de mer impurs, et ils mangent ce bouillon d'animaux impurs. Dieu dit que c'est ce que font les peuples rebelles. C'est ce que font les gens qui sacrifient à d'autres dieux. Toutes les viandes ne sont pas destinées à être mangées. Elle n'est pas destinée à être consommée. Verset 5. Qui disent. Ce sont les gens qui font cela. Ils disent, reste seul, ne t'approche pas de moi, car je suis plus saint que toi. Ils sont une fumée dans mon nez, un feu qui brûle tout le jour. Pensez à un feu de joie ou à un incendie, à la fumée qui pénètre dans votre nez et à l'irritation que cela provoque. C'est très irritant. Vous ne pouvez pas respirer. Dieu dit que les gens, lorsqu'ils font cela, ces actions sont une fumée dans son nez. Et cela est dû en partie à l'hypocrisie. Les gens qui agissaient de la sorte, son peuple, savaient mieux que lui. Ils savaient qu'ils devaient se comporter d'une certaine manière. Ils savaient ce que Dieu attendait d'eux, mais en secret, ou malgré le fait qu'ils savaient ce qu'il fallait faire, Il continuait à manger du porc. Il continuait à manger l'abominable ragoût et disait, « Oh, je suis plus saint que toi. Ne vous approchez pas de moi. Ne me touchez pas. Je suis proche de Dieu. » Pourtant, ils étaient prêts à faire ce que nous venons de lire. Ésaïe 66. Nous restons ici dans le livre d'Ésaïe. Allez un livre plus loin. Ésaïe 66, 17. Reprendre le même thème. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans le jardin. Il s'agit donc de personnes qui se disent « Je suis saint. Je suis plus saint que toi. Je suis séparé. Je suis sanctifié. » Ceux qui se sanctifient et se purifient dans le jardin derrière un arbre au milieu, donc ils sont derrière l'arbre, ils se faufilent, mangeant la chair de porc et l'abomination et la souris, ils mangent des rongeurs, ils mangent des souris, seront consumés ensemble, dit l'Éternel. Frères et sœurs, je ne suis pas à l'aise. Je suis sûr que vous ne l'êtes pas non plus, mais je ne suis pas à l'aise pour dire que Dieu ne se soucie pas de ce que nous mangeons. Il est intéressant de noter que manger du porc est mis sur le même plan que manger des souris et des rats. Vous pensez, « Oh, je ne mangerai jamais une souris. Je ne mangerai jamais de rat. » Vous dites à une personne dans le monde, « Je ne mange jamais cela. » Un sandwich au jambon, cela vous dit quelque chose? Dieu compare tout cela ensemble. Il met tout cela ensemble, et il appelle cela une abomination. Nous l'avons vu dans le Deutéronome. Ne mangez pas de viandes impures. Ne mangez pas d'aliments impurs. La loi des viandes pures et impures est toujours en vigueur. Elle n'a pas changé depuis cette époque, depuis ce que nous lisons. Et ce, en dépit des ministres et théologiens mondains et des gens qui disent « Oh, cela a changé. C'est différent maintenant. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez. » C'est en dépit de ce qu'ils disent. Regardons quelques versets qu'ils utilisent pour essayer de dire que nous pouvons manger tout ce que nous voulons. Marc 7. Ce sont de soi-disant textes de preuve qui prétendent que nous pouvons manger tout ce que nous voulons. Nous n'avons pas encore abordé le message de la leçon spirituelle de cette doctrine, mais il est important d'apprécier ce message spirituel pour comprendre la doctrine elle-même. Et c'est ce que nous faisons. Marc, chapitre 7. Nous allons examiner quelques textes de preuve que certains utilisent pour essayer de dire que l'on peut manger tout ce que l'on veut. Marc 7. Vous avez peut-être entendu parler de ce texte récemment dans une sermonette sur un. Marc, chapitre 7. Nous reprendrons au verset 18. Il y a donc tout un débat sur le lavage des mains, et Christ ne s'est pas lavé les mains avant un repas. C'était tout un rituel. Ce n'était pas comme nous le faisons aujourd'hui. Nous nous précipitons, nous mettons un peu de savon, un peu d'eau, et nous nous lavons les mains. Il y avait tout un rituel autour de cette idée et de cette chose de se laver les mains, et Christ ne l'a pas fait. Il a commencé à manger sans le faire. Il leur dit, « N'êtes-vous pas, vous aussi, dépourvus d'intelligence ?» Ils l'ont donc interpellé sur ce point, ils ont essayé d'interpeller Christ sur ce point. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme par le dedans ne peut le souiller? Ce n'est donc pas ce qui entre en nous qui nous souille, dit-il. Parce qu'elle n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, et qu'elle sort dans le courant d'air, purifiant toute viande. Il dit donc que ce qui souille un homme n'est pas ce qui entre dans son système digestif, dans son estomac, dans ses intestins grêles, puis dans ses gros intestins, et que l'on élimine les solides. Dieu dit que ce n'est pas le problème. Ce n'est pas sur cela que vous devriez vous concentrer, pharisiens. Vous ne devriez pas vous concentrer sur cela. Ces choses vous traversent et sortent de vous. Certains prennent cette leçon spirituelle. Ce n'est pas la leçon spirituelle dont je parlais tout à l'heure, mais certains prennent cette leçon spirituelle que Christ leur expliquait et essaient de la rendre physique. Dieu dit de purger toutes les viandes. Et ils utilisent beaucoup de gymnastique mentale et biblique pour dire maintenant, nous pouvons manger du bacon. Ce n'est pas du tout ce que disait Christ. Ce n'est pas du tout ce qu'il disait. Les gens étirent, tordent et font tout cela pour essayer de contourner la loi de Dieu. Ce n'était pas le contexte. Ce n'est pas du tout de cela que Christ parlait. Il parlait de se laver les mains. Ils étaient trop concentrés sur la saleté physique qui, par exemple, se trouvait peut-être sous ses ongles ou sur ses mains. Et ils se sont concentrés sur cela au lieu des choses sur lesquelles ils auraient dû se concentrer. Ce n'est pas un feu vert pour manger de la viande impure. Romains 14. Jetons un coup d'œil à un autre. Romains 14. Un autre texte soi-disant probant que les gens utilisent pour dire que nous pouvons manger tout ce que nous voulons. Romains 14, verset 14. Je sais, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus, qu'il n'y a rien d'impur en soi, mais pour celui qui estime qu'une chose est impure, elle est impure pour lui. En d'autres termes, et c'est ce que disent ceux qui cherchent à contourner le problème ou à manger ce qu'ils veulent, ils disent, vous savez quoi? Les viandes pures et impures, ce n'est qu'un concept. Ce n'est qu'une idée. Si vous considérez que c'est impur, c'est impur. Si vous considérez que c'est propre, c'est propre. Non, non. Si c'était le cas, quel était l'intérêt de définir tous les paramètres? Et si je considérais simplement que le poison est propre, ce n'est pas un concept. Ce n'est pas seulement une idée. Une fois de plus, les gens utilisent des versets hors contexte, les déforment, les tournent pour dire que nous pouvons manger tout ce que nous voulons. Cela n'a aucun sens. La nourriture propre et impure, ce n'est pas un concept. Ce n'est pas une idée. C'est une loi physique qui a une application physique dans le monde réel. 1 Timothée 4. Examinons à nouveau un verset souvent utilisé pour dire que nous pouvons manger tout ce que nous voulons. 1 Timothée, chapitre 4, verset 4. Car toute créature de Dieu est bonne, et il n'y a rien à refuser, si on la reçoit avec des actions de grâce. Fermez la Bible. Je peux manger mes côtes tant que je prie dessus. Non, non. Pas si vite. Pas si vite. Continuons à lire. Continuons à lire. Verset 5. Car elle est sanctifiée par la parole de Dieu et la prière. C'est le morceau. Les choses que nous pouvons manger sont sanctifiées, séparées ou exclues par la parole de Dieu. Dieu a dit, ne mange pas de côte. J'y reviens toujours. Coquille Saint-Jacques, crevettes, jambon, pepperoni. Dieu dit, ne mangez pas ces choses. Oui, je veux que vous priez pour votre nourriture. Vous devez bénir votre nourriture. Vous devez la recevoir en remerciement, mais elle est sanctifiée. Je vous ai dit dans ma parole les choses que je veux et ne veux pas que vous mangiez. Ce n'est pas un feu vert pour manger tout ce que vous voulez. En fin de compte, Dieu a dit que nous devions manger de la viande propre et ne pas manger de viande impure. Il a été très clair. Vous remarquez que j'ai dit que nous devions manger de la viande. Nous devons manger de la viande. Restons ici au chapitre 4 de la 1 Timothée. Remontons au verset 3. 1 Timothée, chapitre 4, verset 3. Interdire le mariage. C'est Timothée qui dénonce certaines doctrines, en l'occurrence de mauvaises doctrines. interdire de se marier et ordonner de s'abstenir des viandes que Dieu a créées pour qu'elles soient reçues avec action de grâce par ceux qui croient et qui connaissent la vérité. Quand nous regardons ce que nous avons lu plus tôt, quand j'ai dit que vous pouvez manger de la viande propre, tant qu'elle est reçue avec des actions de grâce et sanctifiée par la parole de Dieu, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas d'autre solution. Le fait est qu'il y avait des gens qui disaient « Vous ne devriez pas manger de viande. Manger de la viande est mauvais. » Eh bien, c'est tout simplement faux. Et c'est ce que Timothée dit ici. C'est faux. Le végétarisme n'est pas la voie de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu attend de son peuple. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Oh, vous ne voulez pas tuer le pauvre petit poulet et le pauvre petit animal. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Il n'y a rien de mal à limiter la quantité de viande dans le cadre de ces différents régimes, comme le régime carnivore. Je ne mange que de la viande. Ce n'est pas bon non plus. Il faut ajouter des légumes et des fibres, du pain. Il faut être équilibré. Mais pour des raisons de santé, il n'y a pas de mal à ce que certaines personnes consomment moins de viande. C'est tout à fait normal. Tout à fait. Mais il faut manger un peu de viande. Je me souviens avoir travaillé avec une personne dont le régime alimentaire était tel qu'elle ne mangeait de la viande qu'une fois par semaine, en petite quantité et pour des raisons de santé. C'était pour des raisons de santé. C'est très bien. Mes frères, nous devrions manger de la viande. Nous ne devrions pas nous abstenir de manger de la viande. Comme nous le voyons ici, c'est une doctrine de démon. Certains pourraient se demander, toute cette idée, et c'est étonnant de voir à quel point cette doctrine peut être importante, et les gens qui se demandent s'il faut manger de la viande ou s'abstenir de manger de la viande. Certains vont trop loin, d'autres l'ignorent, et nous voulons certainement être équilibrés. Mais certains pourraient se demander, d'accord, je sais que la Bible dit ce qu'elle dit, tous ces détails, mais le fait de manger ou d'éviter les viandes impures est-il vraiment une question de salut? Ou est-ce que c'est juste un truc sympa à faire, ou cela n'a pas d'importance, cela n'a pas d'importance? C'est à la personne de décider. Est-ce une question de salut? Eh bien, je retournerai la question et demanderai si l'obéissance à Dieu est une question de salut. L'obéissance à Dieu est-elle une question de salut? La réponse est évidente. La réponse est évidente. Frères et sœurs, c'est la doctrine. Je pourrais en dire plus, et je vous encourage à lire notre article à ce sujet. C'est un excellent article à lire. C'est un excellent article à partager et à préparer, non seulement pour votre propre conviction, mais aussi si quelqu'un vous demande « Pourquoi ne mangez-vous pas de porc ? Pourquoi ne mangez-vous pas de crustacés ? Pourquoi cela ?» Non pas que vous lui fassiez un sermon, mais vous voulez être prêt à répondre à cette question. Mais quel est le message caché ? Quel est le message caché ? Nous avons parlé de la doctrine elle-même, mais quel est le message caché derrière la doctrine des viandes pures et impures ? Les viandes propres et impures ne sont pas seulement une question de santé physique et d'hygiène. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grand. Le message caché derrière la doctrine des viandes pures et impures est que Dieu lui-même est pur. Il est pur. Il n'est pas impur. Et il veut que nous soyons également purs. Revenons au chapitre 11 du Lévitique. Lorsque Dieu donne et explique ses lois et les raisons physiques de faire les choses, il vous dit souvent dans le contexte pourquoi il vous demande de le faire. Lévitique, chapitre 11, verset 44. Ceci après avoir expliqué toute la doctrine elle-même et tous les détails. Car je suis le Seigneur votre Dieu. Vous vous sanctifierez, vous vous séparerez, et vous serez saints. Car je suis saint. Vous ne vous souillerez par aucun des reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter ou sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Vous serez donc saint, car je suis saint. Rappelez-vous que propre signifie pur. Impur signifie impur. Dieu nous donne toutes ses instructions, tous ses détails sur ce qu'il faut manger ou ne pas manger. Père, pourquoi nous dis-tu tout cela? Parce que je suis le Seigneur votre Dieu. Je suis saint. Je suis sanctifié. Je veux qu'il en soit de même pour vous. Vous êtes mon peuple. Vous me représentez. Vous représentez qui je suis. Alors, comme je suis saint, propre et pur, je veux que vous soyez exactement comme moi. Je veux que vous soyez comme moi. Dieu se soucie beaucoup des choses que nous mangeons, des choses que nous consommons, non seulement d'un point de vue spirituel ou physique, mais aussi parce que nous sommes capables de prendre quelque chose, de l'examiner et de discerner ce qui devrait ou ne devrait pas être mangé, ce qui devrait nous rendre purs ou non par rapport aux choses qui nous rendent impurs. Nous devons y réfléchir. Dieu veut que nous y réfléchissions, que nous en fassions une priorité. Lorsque nous nous trouvons à l'épicerie et que nous regardons toutes ces différentes options, nous pouvons regarder une certaine viande et dire, « Vous savez quoi? Elle est pure. C'est propre. C'est ce que Dieu veut que je mange. Celle-ci est impure. C'est impur. Dieu ne veut pas que je touche à cela. C'est ainsi qu'il veut que nous menions notre vie. Ceci est bien. Ceci est faux. » 1 Corinthiens. Passez à la première épître aux Corinthiens. Dieu se soucie beaucoup de ce que nous mangeons et de ce que nous consommons physiquement et spirituellement. 1 Corinthiens. Nous pouvons reprendre au chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous tenez de Dieu? Vous ne vous appartenez pas. Frères et sœurs, notre corps ne nous appartient pas. Car vous avez été achetés à un certain prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Ce qui entre dans notre corps physiquement, ce qui entre dans notre esprit spirituellement compte. Ils sont importants. Il y a une cause. Il y a un effet. Une mauvaise alimentation physique entraîne une mauvaise santé physique. Une mauvaise alimentation spirituelle ou des choses impies conduisent à une mauvaise santé spirituelle. Simple et clair. Dieu rend les choses très simples pour que nous les comprenions. C'est le but. Il le fait simplement. Ne mangez pas cela. Ne consommez pas cette nourriture. Vous ne pouvez pas manger ceci. Cette nourriture est acceptable. Restons dans les 1 Corinthiens, allons au chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Frères et sœurs, nous sommes le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un souille le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et vous êtes ce temple. Très important. Nous sommes le temple de Dieu. Si nous souillons ce temple, il y a des conséquences, de graves conséquences. Beaucoup d'entre nous entendent ceci, d'accord, mais je ne mange pas de porc. Je ne mange pas de coquillage. C'est bon. C'est vrai. C'est vrai. Beaucoup d'entre nous ne feraient pas cela. Nous ne mangeons pas de sandwich au jambon, nous ne mangeons pas de pizza au pepperoni, mais qu'en est-il des divertissements pourris? Consommons-nous de la pornographie? Est-ce quelque chose que nous absorbons? En quoi est-ce acceptable pour le temple? Traînons-nous sur des sites de haine, des sites qui dénigrent l'Église de Dieu et qui mentent à propos de l'Église de Dieu et de ses membres, de son chef et de ses chefs? Passons-nous du temps à consommer ou à absorber ces choses? Oh, je ne mangerai jamais de coquilles Saint-Jacques. Mais est-ce que vous traînez dans ces endroits que le diable a rassemblés, tdeville.com, comme je pense que nous l'avons dit dans le passé? Sommes-nous en train de consommer de faux enseignements et des hérésies et de permettre à ces choses de s'infiltrer? Peut-être une ancienne compréhension des choses dont nous nous sommes éloignés en tant qu'Église. Sommes-nous en train de revisiter ces choses, de regarder en arrière, de nous concentrer sur ces choses? Adoptons-nous de mauvaises attitudes à l'égard de nos frères? Bien sûr, vous ne mangerez peut-être pas de calamar, mais si nous ne sommes pas dans un bon état d'esprit, si nous absorbons des choses qui sont dans nos temples spirituels, physiques, spirituels, nous absorbons ces choses, mes frères, elles pourraient certainement être nuisibles. À bien des égards, ces choses, les hérésies, qui sont de faux enseignements, la pornographie, les sites de haine, juste les choses qui sont là, les mauvaises attitudes, à bien des égards, ces choses peuvent être pires qu'une tranche de pizza pepperoni. Elles peuvent avoir des ramifications spirituelles, beaucoup, beaucoup plus néfastes. Dieu dit donc que cette doctrine, les viandes pures et impures, est un message caché, Dieu est saint. Il est séparé. Vous êtes mon peuple. Je vous ai appelé à sortir d'Égypte. Je veux que vous soyez les mêmes. Je veux que vous soyez séparés. Vous me représentez. Cette doctrine contient un message très important. Mes frères, ce n'est pas la doctrine principale dont je veux parler. C'est un message caché. Ce n'est pas le message principal dont je veux parler. Il y a un autre message. Voici un autre message. Allez au chapitre 10 des Actes des Apôtres. Voici un autre message dont j'aimerais parler. Un autre message caché dans la doctrine des viandes pures et impures. Actes, chapitre 10. Nous nous préparons à lire ce chapitre. Je veux que vous vous imaginiez être Pierre, l'apôtre Pierre. Imaginez que vous êtes Pierre et que vous venez de recevoir une vision que nous allons traverser maintenant. Tu viens de recevoir cette vision. Que penserais-tu? Que penseriez-vous? Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous reprenons au verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 9. Le lendemain, comme ils se mettaient en route et approchaient de la ville, voici. Pierre monta sur le toit pour prier vers la sixième heure. Il eut très faim et voulut manger, mais pendant qu'il préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, et un vase qui descendait vers lui, comme une grande nappe cousue aux quatre coins, et qui s'abaissait jusqu'à la terre. Il y avait là toutes sortes de quadrupèdes de la terre, des bêtes sauvages, des reptiles et des oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Vous avez donc cette vision, cette image d'une couverture ou d'un drap qui descend et qui contient toutes sortes d'animaux impurs. Il est dans cette vision et dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Que penseriez-vous à la place de Pierre? Est-ce que vous penseriez maintenant, « D'accord, c'est bien. Je peux manger des lapins et des escargots. Et je vois d'autres personnes qui en mangent. Et cela a l'air bon, alors peut-être que je pourrais en manger maintenant. » Est-ce que c'est ce que vous penseriez? Ce n'est pas ce que Pierre a pensé. Ce n'est pas ce qu'il a pensé. Verset 14. Pierre dit, « Non, Seigneur, Je n'ai jamais rien mangé de commun ni d'impur. Dieu a continué. La voix lui dit une seconde fois, ce que Dieu a purifié, ne t'appelle pas impur. Cela se fit trois fois, et le vase fut reçu au ciel. Pierre dit alors, attendez, je ne mange pas de viande impure. Ce n'est pas ce que je fais. Dieu dit, n'appelle pas pur ce que j'appelle pur, ne l'appelle pas commun ou inusité. Pierre est donc confus. Il est confus. Qu'est-ce qui se passe? Début du verset 17. Or, Pierre doutait en lui-même de la signification de cette vision qu'il avait eue. C'est donc une confirmation. Pierre est confus. Il n'a pas immédiatement dit, « Super, je peux manger tout ce que je veux. » Non. Il regarde cela et dit, « Il me manque quelque chose. » Cela n'a aucun sens pour moi. Il n'a pas immédiatement pris cela et dit, « Je peux manger tout ce que je veux. » Beaucoup de gens utilisent ces versets pour dire cela. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Ce n'est pas du tout ce que Dieu dit. Il y avait un objectif beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand, une chose beaucoup plus grande qui se passait. Et pour comprendre cela, nous devons commencer par le début du chapitre. Souvent, nous commettons l'erreur de nous lancer dans quelque chose sans contexte. Les lecteurs de la Bible peuvent faire cela. Nous devons donc revenir au début du chapitre. Nous savons que Pierre se trouvait à Joppé, dans une ville appelée Joppé. Et le contexte du début du chapitre se déroule à Césarée. Cela se passe à Césarée. Elle se trouve à environ 30 miles de Joppé. Lisons donc le début du chapitre pour connaître le contexte. Or, il y avait à Césarée un homme, nommé Corneille, centurion de la bandite italienne, homme pieux. Corneille était pieux, et craignant Dieu avec toute sa maison. Il était donc un homme craignant Dieu et s'assurait que les membres de sa famille étaient dans le même cas, qui faisait beaucoup de d'aumônes au peuple et qui priait Dieu sans cesse. Ce païen priait donc Dieu. Il craignait Dieu. Verset 3. C'est intéressant. Regardez, il vit dans une vision, donc Corneille a une vision, évidemment vers la 9e heure du jour, un ange de Dieu venant à lui et lui disant, « Corneille !» Le voyant, il eut peur et dit, « Qu'est-ce que c'est, Seigneur ?» L'ange lui répondit, « Tes prières et tes aumônes sont élevées en mémorial devant Dieu. N'est-ce pas quelque chose ?» Dieu a entendu les prières de cet homme. Il a vu les aumônes qu'il faisait. Notez bien. Et maintenant, toujours dans la vision, envoie des hommes à Joppé, qui est à Joppé, Pierre, et appelle un certain Simon, dont le nom de famille est Pierre. Nous voyons donc Corneille, il a eu une vision et Dieu lui a donné une série d'instructions. Il devait envoyer trois hommes au total. Notez bien qu'il s'agit de trois hommes. Il devait envoyer trois hommes à la rencontre de Pierre, et il devait parcourir les 30 miles jusqu'à Joppé. Revenons au verset 17 du même chapitre des Actes des Apôtres. Reprenons là où nous en étions. Or, comme Pierre doutait en lui-même de la signification de cette vision qu'il avait eue. Rappelez-vous, il se dit, « Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'animaux ? Je ne comprends pas. » Pendant qu'il réfléchissait à ce que cela signifiait, juste pendant qu'il y réfléchissait, voici que les hommes envoyés par Corneille s'étaient rendus à la maison de Simon et se tenaient devant la porte. Verset 18. Il appela et demanda si Simon, surnommé Pierre, logeait là. Tandis que Pierre réfléchissait à la vision, tandis qu'il réfléchissait à la vision que Dieu lui avait donnée, l'Esprit lui dit, « Voici trois hommes qui te cherchent. Lève-toi donc, descends et va avec eux, sans douter de rien, car c'est moi qui l'ai envoyé. » Pendant qu'il réfléchit à la vision, Pendant qu'il essaie de discerner ce qu'elle signifie vraiment, Dieu lui dit, « Trois hommes te cherchent. Va là-bas, accueille ces trois hommes, accueille ces trois païens. » Pourquoi Dieu devrait-il lui dire, « Ne t'inquiète pas, ils sont venus pour moi. C'est moi qui les ai envoyés. » Pourquoi Dieu insiste-t-il sur ce point? Parce que les Juifs considéraient les païens comme impurs. Les Juifs considéraient les païens comme impurs. Ils ne voulaient pas interagir avec les païens. Permettre à Pierre de faire entrer trois païens dans sa maison était un grand pas en avant. Cette vision a eu lieu environ 10 ans après la crucifixion, après la mort du Christ. Cette vision a eu lieu environ 10 ans après la mort du Christ. Et même jusqu'à ce moment-là, les païens et les juifs étaient séparés. Cette vision a été montrée 3 fois à Pierre, et elle était liée à ces 3 hommes qui étaient des païens. 3 fois, on lui a dit que ces choses peu communes, impures, ne les appelait pas impures ou peu communes. Ces 3 fois, il a vu que c'était lié aux 3 hommes qui sont venus lui rendre visite. Dieu lui dit, « Reçois-les. Je les ai envoyés. » Pierre commence à comprendre. Il commence à comprendre la véritable signification de la vision, ce qu'elle devait être. Ces 3 hommes ont été envoyés par Corneille, et Pierre doit les recevoir. Verset 25. Ici dans Acte 10. Pierre entrait, et Corneille vint à sa rencontre. Il s'est donc rendu à Césarée pour voir Corneille, et Corneille se prosterna et l'adora. Pierre lui dit, « Non, 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 lève-toi, lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Verset 27. Comme il parlait avec lui, il entra, et il trouva que beaucoup de gens étaient réunis. Il lui dit, « Tu sais qu'il est défendu à un juif de fréquenter ou d'approcher un étranger. Mais Dieu m'a montré que je ne traiterai aucun homme de vulgaire ou d'impur. » Il n'a jamais été question de porc. Il n'a jamais été question de crustacés ou de souris. Il s'agissait toujours de personnes, toujours d'êtres humains. Le but de la vision était de montrer que les païens pouvaient également prétendre à la vie éternelle. Ils pouvaient également faire partie de l'Église de Dieu. Ils pouvaient également recevoir le salut. Jusqu'à présent, aucun païen n'avait été appelé. C'était donc une grande affaire. Dieu est passé par là. Il a orchestré tout cela, 2 hommes dans 2 régions différentes. Il a choisi un homme pieux, Corneille, qui priait et faisait l'aumône, mais qui, jusqu'à présent, n'avait pas eu l'occasion d'être sauvé et de faire partie de l'Église de Dieu. Dieu voulait montrer à l'apôtre principal, Pierre, que vous savez quoi? Je vais maintenant commencer à travailler avec les païens. Je ne vais pas seulement travailler avec les juifs. C'était bien plus que de manger des aliments impurs. Bien plus que cela. Quel est le message caché? Quel est le message caché? Frères et sœurs, Dieu ne fait pas exception de personne. Il aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Il veut que nous ayons tous une chance d'accéder à la vie éternelle, malgré nos origines, notre culture, notre race, notre classe sociale. Tout le monde. Le plan de Dieu est assez grand pour tout le monde. Cela peut sembler anodin. D'accord. Bien sûr, le plan de Dieu est pour tout le monde, direz-vous. Eh bien, mes frères, c'est une grande affaire. Tout d'abord, cela occupe une bonne partie de la Bible. Mais même aujourd'hui, mes frères, c'est une affaire importante. Peut-être pas parmi nous, parce que nous le comprenons et que nous avons une vue d'ensemble. Mais le fait que Dieu aime tout le monde, qu'il ne fait pas exception de personne, c'est très, très important. Lisons-le. Verset 34. Acte 10, 34. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je sais que Dieu ne fait pas exception de personne. Cela signifie qu'il fait des distinctions. Dans ce cas, il s'agit de la race, juif contre païen. Race et nationalité. Dieu ne fait pas exception de personne. Il aime tout le monde. Dieu a tellement aimé le monde entier qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tellement aimé le monde, j'ajouterai le monde entier, qu'il a donné son Fils. Il n'a pas donné son Fils uniquement pour les personnes d'origine juive. Dieu aime tout le monde. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Ce message caché est très important, surtout aujourd'hui. Il a toujours été important, mais surtout aujourd'hui, dans notre culture moderne. 1 Corinthiens 15, 22. 1 Corinthiens 15, 22. Car, comme en Adam, tous dit. Tous les hommes. Chaque femme. Indépendamment de la culture, de la race, de la classe, de l'origine. De même, en Christ, tous seront rendus vivants. Mais chacun selon son ordre. Dieu a un ordre à suivre. Il y a une façon de faire. Christ, les prémices, après ceux qui sont à Christ à son avènement. Dieu a un plan complet et un processus pour sauver tous les hommes. Chacun aura une chance de salut. Quel message plus important que celui-là dans la Bible? Nous avons tous une chance. Une perversion maladive et une déformation de la vérité. Vous avez entendu beaucoup plus de choses, surtout à l'époque de l'Église mondiale de Dieu, sous la direction de M. Armstrong. Il y avait une perversion maladive, et c'est ainsi que je l'appelle. Mais ils accusaient l'Église de Dieu d'israélisme britannique. Combien ont entendu parler de cela? L'israélisme britannique. Ils prétendaient que les Britanniques descendaient des 10 tribus perdues d'Israël. C'est vrai, mais c'était aussi le cas des Français, des Belges, des Hollandais, des habitants du Canada et de nombreux habitants des États-Unis. De nombreuses personnes descendent des tribus perdues d'Israël. C'est vrai. Mais le fait est que Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu n'est pas raciste. On a dit que Dieu était raciste. Les peuples britanniques sont supérieurs. Et cette église, cet armstrongisme, enseigne que les peuples britanniques sont supérieurs. Frères et sœurs, Dieu n'est pas raciste. L'église n'est pas raciste. Le racisme est un poison. Les gens, et Satan, le savent aussi. Le racisme déclenche des réactions chez les gens. Si vous commencez à évoquer la question de la race, c'est comme si vous lanciez une grenade. C'est comme jeter une grenade dans un placard. Attention, cela ne va pas bien se terminer. Cela devient une perversion malsaine et une façon d'essayer de séparer les gens en disant « Oh, tu es meilleur que moi ». Tu penses que tu es meilleur que moi. Tu penses que tu es ceci. Tu penses que tu es ceci. Tu penses que tu es cela à partir de quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler la couleur de notre peau. Nous ne pouvons pas contrôler la culture dont nous sommes issus ou la classe dans laquelle nous sommes nés. Et le racisme se manifeste de différentes manières. Il y a quelques années, même ici, dans l'Église de Dieu, l'hébraïsme noir a déchiré plusieurs congrégations. Cette hérésie a brisé ces congrégations. Cela peut arriver. Elle a éliminé de nombreux frères. Beaucoup de frères avec qui j'ai passé du temps à la fête. Ils ont été pris dans cette hérésie. Cela a même affecté l'apôtre Pierre. Il y a eu un moment où il a reçu cette vision, voici les clés que nous donnons à cet homme. C'est un homme très important, un chef des apôtres. Il s'est laissé entraîner. Il était réticent. Il ne voulait pas admettre qu'il passait du temps avec des païens. Cela peut donc arriver. Paul l'a rappelé à l'ordre. Cela peut arriver. Le tableau d'ensemble, mes frères, c'est que Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Ne nous laissons pas piéger par nos différences. Ne nous laissons pas piéger par nos différences. Si nous devons nous accrocher à quelque chose, accrochons-nous à ce qui nous rend identiques. Les choses que nous partageons. Oubliez la race, la culture et l'âge. Oh, c'est vieux, c'est jeune. C'est jeune. C'est arrivé dans l'Église. Ces jeunes ne comprennent pas. Oh, ces vieux sont déconnectés. Ces femmes ne comprennent pas. Regardez ces femmes. Ah, regardez ces hommes. Ils font tous cela. Ne vous concentrez pas sur ce qui nous rend différents. Concentrez-vous sur ce qui nous rend identiques. Notre unité est source de puissance. Concentrez-vous sur la vérité, sur le fait que peu importe nos antécédents, notre culture, nos origines, notre race, notre sexe, notre âge, tout cela n'a pas d'importance. Nous croyons tous aux mêmes choses. C'est ce qui nous donne du pouvoir. C'est ce sur quoi Satan ne veut pas que nous nous concentrions. Il veut que nous nous concentrions sur les choses qui sont différentes. Nous devrions être humbles, frères, quel que soit notre passé. Nous devrions être humbles de savoir que nous connaissons la vérité. Nous connaissons le sens de la vie. Nous le savons. Jeunes et vieux. Nos enfants le savent. Nous le savons tous. Nous connaissons le sens de la vie. Nous connaissons notre formidable potentiel. C'est sur cela que nous devrions nous concentrer. Dieu veut ce plan pour tout le monde, même pour ceux qui ne sont pas dans l'Église en ce moment, pour les membres de notre famille, nos amis, les gens que nous voyons dans la rue. Le plan de Dieu est suffisamment grand pour tout le monde. C'est ce qui a été si étonnant dans notre compréhension des royaumes et de leur fonctionnement. Le châtiment ne s'abat pas simplement sur le monde. Il y a une opportunité de connaître qui est Dieu. Maintenant, si vous le rejetez, alors d'accord, mais il y a une opportunité de connaître qui est Dieu. Le plan de Dieu est assez grand pour tout le monde. Nous sommes appelés maintenant. Nous avons la possibilité d'être les premiers. Mais si vous êtes les premiers, cela signifie que d'autres suivront. Nous pouvons nous réjouir de cela. C'est une grande leçon cachée dans cette doctrine déviante pure et impure, dans ce cas, la vision avec Pierre. Mais devinez quoi ? Devinez quoi ? Ce n'était pas non plus la leçon cachée la plus importante. Je suppose qu'en fin de compte, je n'ai pas pu choisir la leçon cachée que je voulais retenir. Ce n'était pas le plus important. Et comme je n'ai plus beaucoup de temps, je ferai mieux de m'y mettre. Je vais passer au principal message caché que je voulais aborder. Pour ce faire, il faut se tourner vers Hébreux 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Le chapitre de la foi. Nous allons examiner la principale, ou certains diraient la troisième leçon cachée derrière la doctrine déviante pure et impure. Hébreux, chapitre 11. Verset 1. Or, la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que la foi a à voir avec les viandes pures et impures ? Eh bien, j'irai droit au but. Les viandes pures ou impures, le fait de les manger, pour beaucoup de gens, cela semble inoffensif. Je veux dire, d'accord, je comprends que vous mangiez tout cela, et que cela prenne des décennies, et que peut-être vous mourriez, peut-être pas. Je vois des gens qui mangent des aliments impurs tout le temps. Je vois des gens commander des crevettes et des coquilles Saint-Jacques tout le temps. Je ne vois pas vraiment ce qui leur arrive. Et frère, si je sortais un cheeseburger au bacon tout de suite et que je le mangeais, je ne mourrais pas. Du moins, je ne pense pas. Je pourrais m'effondrer. Qu'est-ce que c'est que cela? Je n'en ai pas mangé depuis longtemps. Mais Dieu nous donne des instructions sur les viandes pures et impures, et il nous met au défi d'obéir en dépit de ce qui semble être l'apparence. Cela ne semble pas être une grosse affaire. Qu'est-ce qui est grave si je mange une part de pizza au pepperoni? Ce n'est pas la fin du monde. J'en mangeais déjà avant. À bien des égards, s'abstenir de manger des aliments impurs, en particulier dans notre culture et dans le monde entier, lorsque vous voyez un million. Je vous l'ai dit, la viande la plus consommée dans le monde est le porc. Je vous l'ai dit, la viande la plus consommée dans le monde est le porc. À bien des égards, s'abstenir de consommer des viandes impures est un acte de foi. C'est une forme de gratification différée. Et c'est vraiment la leçon cachée sur laquelle je voudrais terminer. C'est un acte de foi. Deutéronome 14. Revenons-y. Deutéronome 14. Verset 2. Je vais lire un verset et en lire un autre que je n'ai pas lu à l'époque. Deutéronome 14. 2. Deutéronome, chapitre 14. Verset 2. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Rappelez-vous, nous avons lu ceci. Et le Seigneur t'a choisi pour être un peuple particulier à lui-même, au-dessus de toutes les nations de la terre. En fait, nous n'avons pas lu cela plus tôt. C'est celui que nous avons sauté. Dieu dit donc que vous êtes saint, que vous êtes choisi, que vous êtes particulier, que je vous appelle à moi par-dessus toutes les nations qui sont sur la terre. Puis il ajoute, vous ne mangerez rien d'abominable. Frères et sœurs, lorsque nous nous tenons à l'écart des viandes impures, nous nous démarquons du monde. Nous nous séparons du monde d'une manière juste. C'est en cela que nous sommes particuliers. Cela nous rend particuliers lorsque nous refusons des viandes que nous ne devrions pas manger. Matthieu 7. Matthieu 7. Il y a tant de versets qui parlent d'être une lumière, de se démarquer du monde d'une bonne manière, d'une manière positive. Matthieu 7, verset 13. Matthieu 7, 13. Un principe puissant. Entrez par la porte droite. C'est donc une porte droite, une porte étroite. C'est presque une image où il faut se tourner sur le côté pour passer. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui s'y engagent. Mais la porte étroite est le chemin étroit qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il y a beaucoup plus de gens qui mangent du porc que de gens qui n'en mangent pas. Où est le problème? On dirait qu'il n'y a pas de problème. Eh bien, mes frères, c'est une métaphore puissante du mode de vie de Dieu. C'est une métaphore puissante. Proverbe 14. Proverbe 14. Verset 12. Proverbe 14. Verset 12. Il y a une voie qui paraît droite à l'homme. Ça a l'air bien. J'ai vérifié. J'ai fait des recherches. C'est bien. Ça a l'air bien. Ça semble juste. Mais leur fin est la voie de la mort. Frères et sœurs, tout n'est pas toujours ce qu'il semble être. Nous le savons en tant que peuple de Dieu. Satan est un illusionniste. Il fait paraître les choses à l'opposé de ce qu'elles sont. Il est facile de suivre la foule. Il y a moins de résistance, moins de ridicule. Beaucoup de nos enfants sont confrontés aujourd'hui à la classe, ils commandent une pizza, tout le monde la mange et ils regardent. Ils se disent, il n'y a que du pepperoni sur la pizza, vous n'avez pas faim? Non. Et ils doivent l'éviter. Nous aussi. Ce serait si facile de dire, ah, je vais prendre un morceau. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Toutes les lois de Dieu, y compris les viandes pures et impures, deviennent un certain test. Cela peut être un test silencieux. Cela peut être un test même dans votre propre esprit. Mais cela devient un test. Vais-je choisir la voie de Dieu ou non? Quel chemin vais-je prendre? Quelle décision vais-je prendre? Est-ce que je suis Dieu ou est-ce que je suis la foule? Quelle leçon puissante! Une leçon puissante. Mais laissez-moi vous encourager. Laissez-moi vous encourager. Cela pourrait être difficile. Galates, chapitre 6. Galates, chapitre 6. Cela pourrait être difficile au moment où vous devez prendre la décision. Laissez-moi vous encourager. En fait, Dieu vous encourage. Je vais juste le lire. Galates, chapitre 6, verset 7. Galates, chapitre 6, verset 7. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper. Notez bien. Ne vous laissez pas tromper par ce que vous allez lire. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Car celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. J'aime la nature positive et négative de ce phénomène. Il y a un côté positif. Frères et sœurs, nous récoltons ce que nous semons. Lorsque nous défendons la vérité, lorsque nous décidons, vous savez quoi? Je vais suivre Dieu de cette manière. Même si personne ne regarde, je ne mangerai pas de sandwich au jambon. Nous en récoltons les fruits, physiquement et spirituellement. Lorsque nous défendons la vérité, nous défendons ce que Dieu voudrait que nous fassions, même lorsque personne ne nous regarde. Mais malheureusement, beaucoup sont trompés. Il est dit, ne vous laissez pas tromper. On ne se moque pas de Dieu. Ses paroles sont ce qu'elles sont. Ne vous laissez pas tromper. Mais beaucoup sont trompés. C'est le chapitre de l'Ecclésiaste. Pourquoi sont-ils trompés? Pourquoi sont-ils trompés? Chapitre de l'Ecclésiaste. Ils sont trompés pour une raison. Et c'est la nature humaine. La nature humaine. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 11. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 11. Parce que la sentence contre une œuvre mauvaise n'est pas exécutée rapidement. Parce que nous n'engloutissons pas cette part de pizza au pepperoni, ces côtes, ces coquilles Saint-Jacques, ce homard, ce crabe, et que nous n'engloutissons pas ces huîtres. Parce que la phrase, ou la phrase, le résultat de cela ne se produit pas tout de suite, c'est pourquoi le cœur des fils de l'homme est tout disposé en eux à faire le mal, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je peux manger ce que je veux. Pourquoi t'intéresses-tu à cela? Frères et sœurs, ne vous laissez pas tromper. Nous parlons ici de nourriture, mais il y a d'autres éléments auxquels cela s'applique également. Dieu prend simplement une loi physique et veut que nous en tirions des leçons spirituelles. Le temps nous trompe. Ah, vous savez, ce n'est pas grave. Ce n'est pas vraiment arrivé. Vous savez, la première fois que vous le faites, vous regardez autour de vous, comment cela va-t-il se terminer? La deuxième fois, la troisième fois, la quatrième, la cinquième, la sixième, la dixième, oh, cela va. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Frères et sœurs, ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas abuser. Non, d'accord, nous n'allons pas manger de porc, Mais est-ce que nous payons la dîme? Je vais sauter cette semaine. Je ne vais pas payer la dîme sur ce salaire. Je ne paierai pas la deuxième dîme. Je ne vais pas observer le sabbat correctement. Ce n'est pas grave. Parce que la sentence contre une œuvre mauvaise n'est pas exécutée rapidement, nous pouvons nous retrouver à vouloir faire et aller à l'encontre de ce que Dieu voudrait que nous fassions. Frères et sœurs, ne vous laissez pas abuser. On ne se moque pas de Dieu. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper. Obéir à Dieu lorsque c'est impopulaire ou même lorsque nous ne comprenons pas vraiment pourquoi, cela construit la foi. Cela renforce notre résistance spirituelle. Cela renforce notre conscience. Cela nous donne la force de savoir que je défends ce qui est juste. Je fais ce qui est juste. Ainsi, nous ne sommes pas seulement en bonne santé physique lorsque nous évitons ces aliments impurs, nous sommes également en bonne santé spirituelle parce que nous avons nos convictions. Il y a certaines choses que nous ferons ou ne ferons pas. C'est énorme. C'est énorme. Dieu veut que nous soyons différents, que nous soyons particuliers, que nous nous distinguions en tant que son peuple. Chaque fois que nous avons vu, chaque fois, dans le Lévitique et le Deutéronome, d'autres exemples aussi, mais de manière directe, chaque fois que nous avons vu Dieu énoncer les commandements, il a énoncé les commandements, il a énoncé la doctrine des viandes pures et impures, remarquez comment il a dit, « Vous savez quoi ? Vous êtes mon peuple. Saint, particulier, différent, au-dessus des autres. Nous ne pouvons pas manquer cela. Nous ne pouvons pas passer à côté de ce point. C'est de cela qu'il s'agit dans cette doctrine. Cette doctrine, mes frères, alors que je conclus, cette doctrine est bien plus qu'une simple question de viande. Elle est importante et concerne la viande, mais c'est bien plus que cela. C'est bien plus que cela. Tout d'abord, nous avons vu que Dieu veut que nous soyons purs. Il veut que nous soyons purs, comme lui. Il ne veut même pas que nous fassions des sacrifices. À l'époque, on ne sacrifiait même pas les animaux impurs. Il devait sacrifier des animaux propres. Dieu veut que nous soyons purs, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, comme lui. Nous avons également vu que Dieu ne fait pas exception de personne. Il s'est servi de toute cette impureté, de toute cette doctrine et de toute cette compréhension des viandes pures et impures. Il s'en est servi pour pouvoir dire, « Vous savez quoi ? Je ne travaille pas seulement avec des Juifs. Je travaille avec toutes sortes de gens. » Il s'est servi de cette doctrine pour le faire. C'est énorme. Enfin, et je dirais surtout, cela montre qu'il s'agit d'un acte de foi. Oui, si vous consommez ces aliments, ils finiront par nuire à votre santé, mais ce n'est pas tout de suite. Souvent, ce n'est pas tout de suite. Mais mes frères, il faut de la foi. Il faut de la foi pour ne pas le faire de toute façon. Cela signifie que nous allons nous démarquer. Qui l'aurait cru ? Qui aurait pensé que tout cela pourrait découler de cette doctrine, la plus importante de l'Église, la doctrine des viandes pures et impures ? Alors, frère, la prochaine fois que vous refuserez cette part de pizza au pepperoni ou que vous sauterez le cocktail de crevettes au buffet, sachez que vous le faites pour des raisons bien plus importantes.